Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon, et j'ai le plaisir de partager cette émission avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie.
Bonjour Charlie.
Aujourd'hui, on continue donc notre podcast sur la préparation du voyage au Japon avec un épisode que l'on formulera par une question cette fois, qui est la suivante. Pourquoi le Japon en voyage? Donc pourquoi ce pays attire-t-il tant? Et là, évidemment, on va parler d'un point de vue plutôt touristique et non économique ou autre.
Oui, on va s'intéresser à pourquoi aller au Japon en voyage.
Par rapport à d'habitude, c'est vrai qu'on peut faire nos podcasts en s'appuyant sur un article phare de Kampai. Là, c'est pas le cas, mais n'hésitez pas, évidemment, à consulter toutes les fiches que l'on a. Par exemple, quand on va vous citer des destinations, des saisons ou autres, on a plein de tags sur le site, donc là vous allez pouvoir facilement vous y retrouver tout de même.
Oui, on vous expliquera au fur et à mesure du podcast où vous retrouvez dans Kampai si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on va vous dire aujourd'hui.
Donc avant de répondre à notre question, pour l'introduction, on va la chiffrer. Ça va vous donner un peu une image déjà du succès actuel de la destination. Donc comme vous le savez, la fermeture du pays a été totale pendant la pandémie de Covid-19 et la faiblesse actuelle du yen renforce encore plus aujourd'hui l'attrait pour le Japon et ça va se voir dans ces chiffres-là justement. Donc au mois de mars 2024, pendant cette saison très haute de fréquentation touristique avec les sakura notamment et les vacances de printemps, le Japon a attiré plus de 3 millions de visiteurs étrangers en un seul mois, donc c'est un record absolu pour le pays. Et selon les données fournies par l'Organisation Nationale du Tourisme, le JNTO, c'est 11%, enfin 11,6% même de plus par rapport à mars 2019 qui était déjà un bon pic pour le Japon.
Oui.
Et le dernier mois de fréquentation le plus haut était en juillet 2019 avec 2,9 millions de visiteurs. Donc à voir quels seront les chiffres cet été. Mais on sait déjà qu'en termes d'objectifs, le gouvernement japonais et le JNTO, ils les avaient fixés il y a quelques années de ça, déjà de passer la barre des 30 millions de visiteurs pour 2024. Et on peut quand même souligner qu'ils sont assez ambitieux puisque pour 2030, on attendrait à peu près 60 millions de touristes. Donc ça veut dire que si avec ce record qu'on a eu en mars, on a ce record chaque mois pendant 12 mois, on arrivera à 36 millions à peu près de touristes étrangers et eux visent 60 millions. Donc il y a de gros projets et je pense aussi de diversifier d'autres secteurs et d'autres régions du Japon que on va dire Tokyo, Kyoto, Osaka, etc.
Oui, exactement, puisque ça entraîne beaucoup de monde. On va essayer de les répartir à peu près sur l'ensemble de l'archipel qui est assez vaste, on le verra un peu après. Donc oui, les objectifs sont ambitieux et pour l'instant, les chiffres sont vraiment très bons pour ce retour au tourisme au Japon après l'épisode de pandémie de Covid et donc la rouverture des frontières.
Et donc là, on a fait une introduction chiffrée. Si on essaie de nous ancrer un petit peu plus dans l'histoire du Japon, notamment en parlant du goût des Européens et des Français pour ce pays, on pourrait dire, Marjorie, que ça remonte à peu près à la fin du 19e siècle, là où on s'ouvrait un peu tout juste au commerce étranger et aux exportations, notamment avec la céramique, les estampes, le textile, après les années 1854.
Oui, c'est au moment où en fait on sort au Japon du shogunat Tokugawa, donc on se réouvre à l'Occident. Le Japon sort de sa période isolationniste, donc la période Sakoku, et on va s'intéresser enfin à l'Occident, donc pour le commerce, mais aussi pour tout ce qui est échange d'art et d'objets d'art. Et donc on va avoir ce qu'on appelle en Europe la mode du japonisme. Donc ça va être tous les artistes en fait français et européens qui vont être influencés par l'art japonais, donc notamment les estampes. Et on va le voir aussi avec les peintres impressionnistes, donc notamment Claude Monet, ou dans les affiches de publicité, je pense à Toulouse-Lautrec, où on a comme ça beaucoup d'influences japonaises qui se voient à ce moment-là, donc fin 19e siècle. C'est le premier, en fait, les premières traces qu'on voit d'attirance pour le Japon, vraiment. Au-delà de l'Asie, c'était vraiment le Japon.
Et puis là, on parle de l'art, donc l'art qui s'est diffusé aussi et dans la conscience collective. Donc, si vous reprenez un peu des œuvres de Claude Monet, par exemple, eh bien, vous allez voir qu'en fait, oui, il y a de fortes inspirations japonaises là-dessus. Autre exemple d'inspiration avec les jardins peut-être d'Albert Kahn à Boulogne-Billancourt qui vont être constitués au début du XXe siècle. Encore une preuve que le Japon a déjà commencé à s'internationaliser, on va dire, en tout cas à mettre des marques comme ça un peu partout dans le monde et notamment chez nous en Europe et en France.
Oui, en France, on était déjà pas mal fascinés par l'art traditionnel japonais, que ce soit voilà, au niveau des peintures, qu'au niveau aussi des jardins japonais et du paysage japonais naturel.
Et bien que le pays se soit ouvert depuis quelque temps déjà, nous, j'ai l'impression aussi qu'il y a toujours ce côté, le Japon fait un peu isolé, la culture un peu, ça on va y revenir tout à l'heure, mais culture un peu à part, isolée du fait de l'île. Et donc ça participe évidemment à ce côté autre, unique en termes de destination de voyage, mais ça on y reviendra. Et le Japon, hein, toujours pour rester dans la thématique histoire, il est aussi reconnu par l'UNESCO pour avoir un bon nombre de sites classés. Donc 25 biens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des sites très populaires, hein, comme les monuments historiques de l'ancienne Kyoto, ou le château de Himeji, donc le château du Héron, ce fameux très beau château tout blanc, et les villages donc en toit de chaume à Shirakawago et Gokayama, par exemple. Il y en a d'autres, on peut en citer quelques autres peut-être, Marjorie ?
Oui, ça c'est, tu as cité des sites qui étaient assez connus et qui attirent en fait les visiteurs au Japon. Il y en a d'autres sites classés par l'UNESCO qui sont un peu moins connus, comme la mine d'argent d'Iwami Ginzan dans la préfecture de Shimane, ou encore l'île Gonkanjima au large de Nagasaki. Et donc ça, c'est des sites où on a des fiches sur Kampai, vous pourrez directement aller voir. Et les derniers sites japonais classés à l'UNESCO, ce sont les sites archéologiques Jomon dans le nord du Japon. Et on avait fait un article, c'était pendant la période de pandémie que ça a été classé, et vous pourrez aller voir où les retrouver au nord du Japon, donc dans la région du Tohoku.
On pourrait rajouter également à cela des sites dont on fera peut-être un des podcasts de destination d'ailleurs, comme Nikko et Miyajima, qui font évidemment partie de ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, voilà, c'est des grandes destinations touristiques qui s'expliquent aussi parce qu'elles ont un patrimoine historique fort, tellement fort qu'ils ont été classés à l'UNESCO.
Et puis c'est aussi les images un peu d'épinal que l'on a du Japon. Donc par exemple, je pense à Nikko avec ses temples au milieu des forêts de cèdres géants. Donc ça, c'est des choses qui sont assez parlantes, hein, avec les torii ou les temples. Et donc, ça nous fait très vite voyager aussi.
Voilà.
Vu que le Japon est un pays très étendu, du nord au sud et d'est en ouest, il est historiquement très ancien et donc c'est un pays qu'on va aborder sous plusieurs strates. Et c'est les strates qui vont, on va dire, des approches qui vont cohabiter les unes les autres. Et donc, c'est, si vous entrez par une de ces portes, eh bien, vous allez découvrir aussi au passage les autres. Et nous, on a choisi 5 portes d'entrée pour répondre à notre question « Pourquoi le Japon en voyage ?» Et donc on va les énumérer, hein, ce sera notre sommaire du jour. Donc on commencera avec la première partie qui traitera de cette culture unique et profonde que vous pourrez rencontrer au Japon. On parlera de la gastronomie en seconde partie, des très beaux paysages japonais et des images d'Épinal justement en troisième. En quatrième, on abordera très très rapidement la langue japonaise, puisque c'est elle aussi qui va permettre d'être une porte d'entrée pour cette approche de la culture notamment. Et on terminera par souligner le fait que le Japon, c'est une destination qui est quand même très facile une fois qu'on est sur place et qu'on a bien préparé son voyage, et très tranquille aussi. Donc c'est une façon de voyager très agréable. Et nous allons commencer notre première thématique avec la culture unique et profonde du Japon. Donc le Japon, c'est vrai que c'est une culture qui va s'aborder d'abord, on pourrait dire presque visuellement, puisque l'impact visuel du Japon va être très fort, hein, que ce soit dans la culture traditionnelle, dans la culture pop ou dans la culture spirituelle. C'est trois cultures qui vont être à la fois très différentes et en même temps un peu liées, puisqu'il y a toujours un moyen d'aller vers l'une ou l'autre. Je trouve que, quels que soient les médias ou dans les paysages, etc., on peut toujours s'y retrouver dans une de ces trois cultures. Et le visuel au Japon, c'est quelque chose qui va être à la fois ancien, ça peut être évidemment, comme on dit souvent, très moderne aussi, et quelque chose qui est très fin, très maîtrisé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir trouver dans la culture traditionnelle et historique, par exemple, avec les jardins, entre autres.
Oui, parmi les points forts du Japon et la culture traditionnelle, on va retrouver donc les fameux jardins japonais ou jardins zen. Et c'est des paysages qui sont typiques du Japon et qui sont très beaux à contempler une fois sur place. Et ça va faire partie, voilà, des premières raisons pour aller au Japon pour tous ceux qui aiment le côté traditionnel et le côté historique sur le Japon ancien, comment vivait par exemple à l'époque féodale. Donc un des plus beaux et grands jardins du Japon qu'on pourrait conseiller, c'est le Ritsurin Koen à Takamatsu. Donc Takamatsu, c'est sur la plus petite des 4 grandes îles du Japon, donc Shikoku. Donc c'est un magnifique jardin qui est tellement vaste que c'est considéré comme un parc et ça emprunte le paysage à la nature environnante, donc c'est magnifique.
Oui, puis en plus de ça, ils ont mis des les points de vue justement qui sont hyper bien faits justement pour... que ce soit des lieux de contemplation, chaque point de vue est un lieu de contemplation, et il y a une maison de thé aussi sur laquelle vous pouvez arrêter, et la vue depuis cette maison de thé est vraiment fabuleuse.
Oui, voilà, donc les jardins japonais, c'est une bonne raison pour aller visiter l'archipel. Et puis, si on peut vous en donner deux, trois autres, il y a les trois plus beaux jardins japonais aussi qu'on peut aller visiter. Donc, il y a le Korakuen à Okayama, le Kenrokuen à Kanazawa, et puis le Kairakuen à Mito. Mito, c'est au nord de Tokyo. Donc ça, ce sont trois grands jardins japonais qui sont magnifiques aussi à contempler, qui ne sont pas forcément dans les villes les plus touristiques, mis à part peut-être Kanazawa. Mais Okayama, ce n'est pas très loin de Kyoto non plus, donc on peut y aller facilement. Et puis sinon, si vous voulez voir des jardins, vous allez dans les temples bouddhistes. La plupart des temples ont des jardins zen ou des jardins secs. Ou alors, vous allez visiter les anciennes résidences seigneuriales, donc à l'époque souvent d'Edo ou à l'époque un peu plus ancienne. Et donc, les familles puissantes de ces provinces avaient donc des résidences et faisaient aménager des magnifiques jardins japonais tout autour. On peut vous en citer un qui est particulièrement joli, qui est à Kumamoto, donc tout au sud du Japon, et qui est le Zuizenji Jojuen. Et donc, ça appartenait à l'ancienne famille puissante Osokawa, donc dans la préfecture de Kumamoto.
Pour citer d'autres exemples liés à la culture traditionnelle qui pourraient l'illustrer, évidemment, ce ne sera pas exhaustif. On va pouvoir vous citer, par exemple, la mode vestimentaire avec les kimonos, entre autres, la cérémonie du thé, la calligraphie de kanji, les arrangements floraux, donc ce qu'on appelle l'ikebana, les estampes japonaises et ukiyo-e, le théâtre kabuki et le théâtre de no, par exemple, les geishas, les arts martiaux ou encore le sumo. Et tout ce qu'on retrouve, par exemple, sur les estampes, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est des activités, des paysages que l'on peut retrouver encore aujourd'hui, un peu plus urbanisés, évidemment, entre autres, mais c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver, tandis que nous, dans notre art, on va dire, du 19e siècle, 20e siècle, c'est pas forcément les images que l'on va avoir dans les musées, on peut pas forcément retrouver ces activités-là, ça demeure pas encore aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas plus rarement, tandis qu'au Japon, ça accourt un peu plus les rues, on va dire, les petites ruelles, pour les retrouver, donc ça dépayse aussi, ça permet aussi de montrer cette vie traditionnelle qui existe encore au Japon.
Tout à fait, Charlie, dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le Japon, c'est un pays qui est fascinant dans ce sens où chaque culture qu'il va développer dans sa modernité, il va le faire sans oublier l'ancienne. Et ça va être vraiment, comme on dit, des strates ou des couches qui vont se superposer, mais qui vont jamais, en fait, oublier ce qu'elles étaient avant. Et donc, la culture traditionnelle, elle continue aujourd'hui d'exister au Japon et de perdurer. On reverra toujours encore des hommes et des femmes habillés traditionnellement, soit pour des mariages, soit pour visiter des temples. Mais on les verra dans le métro, on les verra dans la vie quotidienne. On verra encore des jardins japonais qui datent de plusieurs centaines d'années et qui sont toujours maintenus. Et c'est vraiment le côté où tout vit en harmonie ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit souvent entre tradition et modernité. Donc c'est cette expression qui résume un peu beaucoup le Japon. Il y a du vrai, il y a du faux évidemment dans cette expression, mais il y a du vrai dans le sens où tout continue de vivre. Et du coup, on peut vous donner d'autres exemples, par exemple, de tourisme lié à la culture traditionnelle qui fonctionne très très bien au Japon. C'est notamment aller visiter des endroits au Japon qui ont inspiré les poètes de haïku. Furuikeya, kawazu tobikomu, mizu no oto. Donc de poésie traditionnelle, et je pense donc au principal poète japonais qu'on connaît, qui est Matsuo Basho, donc qui a vécu au XVIIe siècle et qui avait fait plusieurs voyages à travers son pays. Et il en avait retranscrit des impressions, donc il avait écrit sous forme de poème haïku. Et il y a certaines destinations qu'on visite, notamment pour retrouver en fait cet esprit-là que Basho à l'époque avait ressenti. Donc on peut citer notamment le pavillon flottant sur le lac Biwa, donc qui s'appelle Ukimido. On peut aller faire aussi l'ascension sacrée à Yamadera au nord du Japon à travers une enceinte bouddhiste et on a une vue en fait sur la montagne et la vallée, c'est magnifique. Ou encore aller à Nikko, donc ce que tu disais tout à l'heure Charlie, c'est un site qui est classé à l'UNESCO mais c'est aussi un site qui vivait depuis longtemps, qui était sacré et Basho à l'époque avait déjà fait des poèmes parce qu'il avait trouvé la nature là-bas magnifique et on peut retrouver ça sur le chemin historique Kanman donc qui englobe aussi l'abyss Kanmangafuchi. Et là, vous pourrez voir, on a un article dessus, il y a des statues aussi, Jizo. En fait, tout en fait, s'entremêle, le côté culturel, poétique, le paysage de montagne, le côté historique. Et en sens, on peut avoir plusieurs lectures d'un même lieu.
Et enfin, cette tradition, elle se retrouve dans le paysage via les châteaux que vous pourrez visiter ou observer. Il y a 12 châteaux authentiques au Japon, dont le château Himeji dont on a parlé tout à l'heure, le fameux château du Héron, mais on peut aussi conseiller celui de Matsumoto, par exemple à Nagano, Matsue dans la préfecture de Shimane, Matsuyama à Ehime et Hikone autour du lac Biwa à Shiga. Donc là aussi, on a des articles sur certains de ces châteaux-là.
Oui, exactement, sur tous ceux qu'on a cités, on a des articles. Donc il y a 12 châteaux authentiques, mais après il y a beaucoup plus de châteaux en vrai au Japon qui ont été reconstruits. Donc quand on dit les châteaux, on pense souvent aux donjons. Et sinon, vous avez aussi des ruines que vous pouvez visiter pour les amateurs d'architecture, d'aménagement en fait féodaux. Donc les ruines avec des douves, avec des fortifications, etc.
Et comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, on trouve qu'il y a plusieurs types de cultures au Japon. Donc là, on va évoquer maintenant celle de la culture populaire, qui va être évidemment donc plus récente et fait un peu écho aussi au soft power japonais, à la cool Japan. Et en porte d'entrée, nous, on connaît peut-être aussi surtout les mangas et les animés, la musique J-pop, le cinéma, le cosplay, les jeux vidéo, par exemple, proposés par Nintendo ou PlayStation depuis des années. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais c'est un peu transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a les nouvelles générations qui grandissent avec le côté, un peu comme pour la tradition, on va dire, le côté nouveau et en même temps des choses qu'on connaissait de nous déjà avec Nintendo, PlayStation, Pokémon, etc. Et donc ça cohabite bien parce que du coup, ça fait un lien générationnel aussi, on va dire, des choses qu'on peut comprendre de nos parents, de nos enfants, etc. Et ça, c'est assez cool. Il y a de grandes figures évidemment que nous on va connaître avec des artistes et réalisateurs comme Hayao Miyazaki, Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda et donc des licences populaires comme Pokémon, Naruto, One Piece ou Dragon Ball. Et donc ça on vous en parle dans les podcasts interview, on y reviendra, et aussi dans les podcasts actualité.
Oui, donc toute cette culture pop en fait japonaise est aujourd'hui bien intégrée dans notre société française et européenne. C'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure des années. Il y a une évolution des mentalités parce que c'est, en fait, ça fait depuis, alors en France, on va dire depuis le Club Dorothée qu'on peut avoir accès aux animés à la télévision. Et au début, c'était pas aussi bien accepté par les critiques, par les parents qui jugeaient aussi ces dessins animés un peu, parfois un peu trop violents ou un peu trop bêtes. Et on a vraiment une évolution des mentalités. Et aujourd'hui, donc, on reconnaît les animés japonais comme comme un vrai art. Et ça prend aussi en compte les animés faits d'e-cool de ce qu'on appelle les mangas. Donc, c'est la BD, la bande dessinée japonaise. Et tout ça, c'est aujourd'hui un art qui est complètement reconnu et qui s'exporte très bien à l'international. Alors que ce sont en fait à la base des produits japonais qui ne sont pas du tout formatés pour l'international, ce sont vraiment des produits formatés pour le Japon, pour les Japonais, et aujourd'hui on a, nous, une appétence à aimer cela qui est très forte. Et aujourd'hui en France, on a plus d'une bande dessinée vendue sur deux qui est en fait un manga et pas seulement une bande dessinée par exemple française ou d'origine belge ou alors les comics américains. Donc ce sont c'est un pan culturel qu'on a complètement adopté, et c'est pour ça aussi qu'on a envie d'aller au Japon, c'est que quand on lit les mangas ou quand on regarde les animés, on voit des paysages japonais ou on voit la vie quotidienne au Japon, notamment tout ce qui est la vie scolaire avec les écoliers et les étudiants, et on a envie d'aller voir à quoi ça ressemble sur place. Donc c'est une clé de lecture japonaise auquel on est très sensible et qui a commencé dans les années 80-90. Et aujourd'hui, les enfants qui aimaient en fait cette culture-là sont devenus parents et peuvent échanger avec leurs enfants. Et c'est vrai que maintenant, Pokémon, tout le monde connaît. Et alors que c'est une licence qui a plus de 20 ans, qui continue d'exister. Et les enfants maintenant, même en primaire, échangent des cartes. Dragon Ball, on connaît. One Piece, c'est eux qui soutiennent les ventes de mangas en France. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans nos mentalités et qui fait qu'on a envie d'aller au Japon.
Oui, puis ça, en plus, sur cette nouvelle génération, on le voit avec le pass culture, où la plupart du budget alloué à ce pass culture est utilisé pour acheter du manga. Et comme tu le disais, dans le manga, on va déjà avoir une connaissance des paysages, de la gastronomie, qu'est-ce qu'on peut manger au Japon, à quoi ressemblent les villes, etc. C'est quelque chose qui va très bien se faire. Et du coup, les gens connaissent déjà un petit peu le Japon. Donc ça, c'est un média qui était parfait, en fait, pour transmettre un peu de sa culture.
Et du coup, quand vous allez au Japon, ce que vous pouvez faire, c'est des pèlerinages de sites réels. Donc ça, c'est une activité qui est très japonaise à la base, que eux-mêmes, les Japonais font pour quand ils sont fans de leur propre animé ou manga, ils vont aller visiter les sites réels qui ont inspiré les auteurs. Et donc en japonais, ce type de pèlerinage s'appelle Senchi Junrei. Et donc on a plusieurs comme ça itinéraires qui se forment au cours du temps en fonction des succès d'une œuvre ou de plusieurs œuvres. On pense par exemple à l'œuvre de Your Name de Makoto Shinkai, qui avait en fait engendré pas mal de visites au Japon pour aller voir en fait le fameux escalier rouge où ils se rencontrent. Plus récemment, on a fait aussi un pèlerinage par rapport à Suzume sur Kampai, donc le dernier Makoto Shinkai. Où en fait, on a l'itinéraire qui débute dans le sud du Japon à Kyushu pour finir sur la côte pacifique au nord du Japon. Donc ce sont beaucoup de lieux qui sont cités qui ne sont pas forcément ceux qu'on retrouve dans la culture traditionnelle ou la culture des sites incontournables. Ça va être d'autres sites qui vont popper et qui vont nous faire aller au Japon. Et on va avoir une autre lecture tout aussi intéressante. Et on peut citer par exemple la préfecture de Tottori, qui est une préfecture qui n'est pas très touristique, qui est côté mer du Japon. Et on a deux villes qui sont comprises dans ce pèlerinage. On a Hokuei pour la ville de détective Conan, et on a aussi donc Kurayoshi pour tous ceux qui sont amateurs de l'œuvre Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Donc ça, c'est plusieurs pèlerinages à faire qui sont vraiment sympas. Et un pèlerinage récent aussi, c'est pour tous les fans de One Piece. Si vous voulez aller voir les statues de l'équipage One Piece, elles ont été édifiées dans la préfecture de Kumamoto depuis 2018 jusqu'à 2020 ou 2021, si je me souviens bien. Et donc, vous faites un tour de la préfecture de Kumamoto pour aller voir ces 10 statues de One Piece. Pourquoi Kumamoto ? Bah parce que c'est la préfecture d'où est originaire l'auteur, donc Eiichiro Oda. Pour tous ceux qui sont intéressés par ces pèlerinages un peu plus en détail par rapport à des œuvres, donc c'est essentiellement donc du manga, du jeu vidéo ou des animés. On a deux livres qu'on peut conseiller, donc de Gaël Berton, c'est les livres Voyager au Japon qui sont édités par Third Edition. Donc on avait le premier tome du Pixel au réel et le deuxième tome sur les terres du manga. Donc ça vous donne d'autres clés d'entrée pour aller voyager au Japon pour tous ceux qui aiment voilà la culture populaire et le cool Japan.
Troisième porte d'entrée vis-à-vis de la culture, celle qui va être spirituelle. Donc par exemple avec la religion Shinto, qui est la religion intrinsèque du Japon, cette philosophie unique au pays. Et à cela, on va ajouter au Shinto le bouddhisme qui est venu de Chine et dont plusieurs écoles ont été adoptées comme le Tendai, le Shingon, la Terre pure ou le Zen. Cela, Kelly nous en avait parlé déjà récemment dans des podcasts. Et en plus de ça, on a aussi une interview de Clément qui est moine au Japon et qui parle de spiritualité. Donc vous pouvez aller voir son interview qui a été menée par Gaël il y a quelques mois déjà. Donc si c'est la spiritualité au Japon, ça peut vous intéresser, eh bien Clément il vit ça au jour le jour puisqu'il est moine là-bas, donc c'est un podcast hyper intéressant à écouter.
Oui, bah déjà dans la culture spirituelle, on va avoir tendance à penser à Kyoto en priorité, donc la ville aux plus de 2000 temples et sanctuaires. C'est vrai que Kyoto est connu pour sa spiritualité. Après, il y a des temples et des sanctuaires, donc des temples bouddhistes et des sanctuaires Shinto partout au Japon, dans toutes les villes, dans les quartiers, dans les campagnes, au sommet des montagnes. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à éviter quand on va au Japon. Hein, même si on n'est pas attiré par la religion ou la spiritualité, c'est quand même des lieux où de rassemblement où les locaux viennent prier, se rassembler ou fêter les fêtes, fêter les rituels annuels liés à la vie japonaise. Elles ont tous ces sites-là, ils ont des architectures particulières, certains qui sont considérés comme authentiques ou de valeur. Donc vous allez avoir des classements entre les temples et les sanctuaires suivant leur histoire, leur poids dans l'histoire, leur lien avec la famille impériale, etc. Si on peut vous en citer quelques-uns, des plus grands à voir, dans les sanctuaires, on a deux grands sanctuaires japonais. On a Ise-jingu à Mie et Izumo-taisha à Shimane. Donc, ce n'est pas du tout dans les grandes villes touristiques, mais c'est les deux grands sanctuaires berceaux du shintoïsme au Japon. Et puis, côté temple, vous irez voir dans tous nos podcasts qu'on a déjà dit sur les villes comme Tokyo et Kyoto et sur Osaka. Et sur nos fiches sur Kampai, on a donc des milliers de temples à visiter qui sont intéressants. Ce qu'on pourrait retenir aussi, c'est qu'on a des grands Bouddhas à voir pour ceux qui aiment l'architecture monumentale. Donc les grands Bouddhas, les Daibutsu, on connaît celui de Nara, qui est Otodaiji, le fameux Bouddha assis en bronze, ou alors celui de Kamakura, qui est au temple Kotokuin. Mais on a aussi d'autres Daibutsu qui sont très intéressants à voir, comme le Daibutsu à Ushiku, dans la préfecture d'Ibaraki, donc au nord-est de Tokyo, celui qui est à Kobe, au Nofukuji, ou le grand Bouddha couché, qui est au temple Nanzoin, qui est dans la préfecture de Fukuoka. Donc ça, ce sont des pans de la culture spirituelle qui peuvent accrocher l'œil. C'est niveau visuel, vous serez quand même assez impacté puisque c'est des architectures monumentales. Et que l'on soit croyant ou pas, ça reste quand même une expérience, je pense, à vivre pour tout visiteur qui découvre le Japon.
Ouais, c'est ce que je voulais dire et tu l'as très bien dit, c'est que ça passe aussi, même quand on n'est pas connaisseur, ça passe par le visuel et donc ça fait des monuments, qu'ils soient justement gigantesques ou non, et bien qu'ils vont quand même taper à l'œil et donc avec quelque chose de très épuré, très fin. Et donc ça marque forcément, même si vous n'avez pas la connaissance qui va avec. Et on peut aussi vous conseiller pour ça d'en profiter au mieux avec des visites guidées, par exemple, en prenant un guide pour la demi-journée ou pour la journée, afin de ne pas passer à côté de clés de compréhension, des choses que vous allez par vous-même ensuite retrouver quand vous allez faire d'autres visites de temples, par exemple.
Oui, c'est vrai que quelques clés sur la symbolique, ça peut aider, ou sur comment prier, comment faire des vœux, ça peut être vraiment intéressant. La culture spirituelle au Japon, elle est aussi beaucoup liée avec la nature, et c'est pour ça qu'on peut faire aussi des pèlerinages spirituels, qui sont en fait des randonnées dans la nature entre plusieurs temples ou sanctuaires. Les plus connus au Japon, ce sont les chemins de Kumano-Kodo et le pèlerinage des 88 temples de Shikoku, qui est classé à l'international, qui en fait fait le parallèle avec le chemin de pèlerinage de Compostelle. Et on a aussi des pèlerinages qui sont un peu moins connus en dehors des frontières du Japon, mais qui sont pratiqués par les fidèles. C'est les pèlerinages dédiés à Kanon, donc, qui est un Bouddha très apprécié au Japon. Et on a notamment le pèlerinage des 33 temples de Kanon du Kansai. Et ça, beaucoup de temples qu'on cite à Kyoto ou dans le Kansai qui sont à faire font partie en fait, de ce pèlerinage-là.
Et puis si vous êtes adepte des pèlerinages en règle générale, que ce soit par rapport aux animés, mangas, la pop culture ou celui lié à la culture spirituelle, eh bien au Japon ça se fait quand même beaucoup, le fait d'acheter là-bas son petit carnet et puis donc d'aller de site en site pour avoir les tampons officiels de chaque endroit. Donc c'est quelque chose qui peut être très cool à faire, notamment si vous êtes en famille. À chaque temple on va aller voir, par exemple je crois que dans les temples on peut aller voir directement le moine pour obtenir le Goshuin, donc le sceau du temple. Ça c'est plutôt avec des carnets à acheter plutôt au Japon que si vous ramenez votre propre carnet, hein. Des fois oui, c'est pas forcément accepté, il faut le savoir.
Oui, c'est un carnet spécial à Goshuin qu'on achète dans le premier temple qu'on va visiter.
Et donc voilà, c'est quelque chose qui se fait, vous verrez, si vous ne le faites pas, vous verrez les autres le faire.
Oui, c'est ça, et ça vous donnera envie de le faire.
Notre seconde porte d'entrée est peut-être une de nos préférées, donc on a décidé de ne pas trop s'étendre là-dessus. Ça va être celui de la gastronomie japonaise. Le sushi et le ramen, par exemple, en sont la vitrine internationale. C'est ce qui est le plus connu, on va dire, par les étrangers. La nourriture sur place est bien plus large en choix et en goût que ces deux mets-là. Il y en a plein d'autres, donc là, on va vous en décrire quelques-uns. Mais évidemment, c'est pas exhaustif. Et puis, il y aura toujours des spécialités régionales, des façons de faire différentes, que ce soit dans un marché, dans un restaurant, quelle que soit la gamme du restaurant, etc. Donc, on vous laissera creuser pour les bonnes adresses. Et puis, vous pourrez retrouver aussi quelques indications sur Kampai, évidemment.
Oui, le Japon, c'est vraiment un pays où on va pour manger. C'est comme aller en Italie pour aller manger des pâtes ou des pizzas ou de la tomate, et bah, le Japon est connu pour sa gastronomie, est reconnu. Et c'est vrai que entre manger japonais à l'étranger ou manger japonais au Japon, il y a quand même une petite différence.
Oui, en plus de ça, c'est vrai que tout ce qui est vendu comme japonais dans un restaurant, admettons en Europe, eh bien en fait ça peut être chinois, ça peut être un mélange, etc. Tandis qu'au Japon, on va avoir vraiment ce respect quand même. Et si c'est du si c'est du restaurant chinois, ce sera indiqué restaurant chinois par exemple.
Oui, alors même si aujourd'hui la gastronomie japonaise elle est plus facile à rencontrer à l'étranger, c'est-à-dire que maintenant on peut acheter quand même des produits d'épicerie fine à l'étranger japonais, ça reste quand même une vraie expérience d'aller manger sur place, en sachant que la plupart des restaurants, c'est bon, la cuisine, elle est simple, enfin, elle sera japonaise, simple, bonne, très bon rapport qualité-prix. Effectivement, vous aurez des restaurants gastronomiques un peu plus luxueux, mais globalement, ça ne va pas être un poste de dépense qui va être énorme pour votre voyage, mais en termes de découverte gastronomique, vous allez avoir un choix très large, voilà, fait de spécialités régionales, de spécialités saisonnières, et plein de choses qui donnent envie de goûter.
Donc là, on va vous détailler quelques points pour aussi avoir des clés de compréhension, si c'est un peu flou pour vous encore peut-être, ou si vous avez besoin de précision, notamment en vous disant que peut-être que la base de la nourriture, ce sera le riz, les algues, le poisson, les nouilles soba et udon par exemple.
Oui, les nouilles, en fait, c'est on mange du riz au Japon, donc classiquement dans un pays asiatique. Mais les nouilles sont aussi une base de l'alimentation japonaise. Et on a fait des articles là-dessus. On a un tag sur Kampai qui s'appelle Cuisine japonaise. Et ensuite, on a plusieurs articles pour les grands plats typiquement japonais. Donc les nouilles, donc, qu'ils soient udon au soba, donc à base de farine de blé ou de sarrasin. Et après, ils vont les manger en bouillon, ils vont les manger sautés sur une plancha, donc les yakisoba. Ils vont les manger aussi froides, suivant la saison, etc. Donc elles seront déclinées, ces nouilles-là, en différents plats qui vont aller en fonction des saisons et en fonction des occasions également. Autre plat, donc le ramen, c'est le fameux bol de nouilles chaudes qui est servi dans un bouillon et qui est agrémenté d'algues, de tofu, d'œufs, de tranches fines de viande ou de crustacés, etc. Au Japon, vous aurez les meilleurs restaurants de ramen, hein, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, même si en France on est bon là-dessus, ou même dans d'autres pays, au Japon vous aurez des très bons ramen pour pas forcément très cher, vu que c'est un plat qui est très consommé au quotidien par les Japonais. D'autres choses qu'on peut vous citer pour vous donner un peu l'eau à la bouche, on a les tempura, donc ce sont les beignets de légumes, de viande ou de poisson, qui sont panés et frits dans l'huile, c'est très très bon, ça s'accompagne avec du riz ou des nouilles. On a les fameuses brochettes de volaille yakitori, donc ça c'est quand on fait des apéros, par exemple en fin de journée, dans les bars izakaya, on va manger des yakitori, donc avec toutes les parties de la volaille, donc aussi bien les abats que les différentes parties de muscles. On peut aussi avoir des yakitori aux légumes. Quelque chose qui fonctionne très bien au Japon aussi, c'est le pot-au-feu japonais, donc le nabe ou aussi les oden. Donc ce sont différents aliments comme le poisson, le tofu, le konjac qui sont mijotés dans un bouillon dashi et donc à manger directement prêt à emporter. C'est délicieux, surtout l'hiver, c'est léger, c'est nourrissant. C'est très bon. Et puis dans tout ce qui est un peu dessert, un peu plus sucré, même si bon, le Japon et le sucre, c'est pas comme nous on l'entend, hein, c'est pas aussi sucré qu'on le pense.
Oui, ça peut vous donner une impression un peu surprenante quand on vous propose un dessert sucré qui n'a pas du tout le goût de sucre.
Oui, voilà. Mais en dessert traditionnel, on a les galettes de riz grillées, craquantes et nappées de sauce soja qu'on appelle senbei. Donc ça, vous en verrez partout au Japon. Donc c'est sucré salé. Faut le savoir la plupart du temps. Les fameux mochi, donc les desserts à base de riz gluant qui sont assaisonnés suivant les saisons, donc au thé vert, aux fruits comme à la fraise, à l'haricot rouge, azuki, etc. Que l'on consomme souvent donc avec du thé vert ou du matcha. On a aussi donc les mochi en brochette qu'on va appeler les dango, donc les fameux trois boulettes de mochi sur une brochette, la rose, blanche et verte. On a aussi d'autres desserts comme le yokan, donc ça c'est une pâte sucrée d'haricots rouges, donc azuki, et avec de la gelée agar agar. Ça c'est plus difficile à manger, c'est plus traditionnel, c'est plus difficile à manger. Mais c'est très intéressant de le faire dans un salon de thé traditionnel. Ou alors on a aussi les petits pancakes fourrés, les dorayaki, qui sont très très bons, très roboratif et qu'on peut trouver un peu partout, soit dans des salons de thé, soit dans les combini. Les fameuses supérettes ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Japon. Donc on aura tout le temps de quoi se restaurer au Japon, on pourra toujours trouver à manger, ça c'est très important. La culture de la nourriture au Japon, elle est très présente et les Japonais eux-mêmes voyagent à travers leur propre pays pour aller goûter des spécialités locales. Et vous verrez partout des marchés alimentaires, des restaurants. Pendant les matsuri, dans les festivals, vous aurez des stands yatai où vous pourrez vous régaler. Donc là, vous avez vu beaucoup, je pense, déjà des images ou des vidéos sur la nourriture au Japon. Et c'est vraiment une des portes d'entrée pour aller visiter le Japon. C'est ce qui manque le plus quand on revient, c'est de manger japonais. Et sur les boissons, si on peut terminer là-dessus, on va retrouver évidemment en boisson classique le thé vert ou le thé en poudre, donc matcha, le nihonshu, donc qui est le saké japonais, l'umeshu, le vin de prune, le whisky ou les bières artisanales, qui sont les alcools les plus intéressants, si on peut vous donner une sélection, à tester au Japon.
Et puis tu parlais tout à l'heure des supermarchés, c'est vraiment un lieu où vous allez avoir un peu tous les possibles, alors de moins bonne qualité quand même sans doute, même si c'est toujours plus sympa que dans certains de nos supermarchés, où vous allez avoir les traiteurs qui vont vous permettre d'accéder à pas mal de spécialités un peu différentes. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir au restaurant par exemple, où vous êtes un peu passé à côté de la carte, eh bien devant vous, vous allez pouvoir vous servir avec tout ce qui va être lié à base de riz, de soupe, etc. C'est disponible déjà en supermarché, et à certains horaires, vous pouvez avoir des réductions aussi pour vous faire votre plat du soir. Vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant tous les soirs pour emporter ou prendre à l'appartement ensuite ou à l'hôtel, c'est vraiment sympa. Et je voudrais juste rajouter peut-être quelque chose sur la manière de manger qui peut être parfois un peu dépaysante pour certaines personnes. Le fait notamment que vous allez avoir des endroits, des restaurants, où vous allez devoir ôter vos chaussures, vous allez manger assis plus tôt. Certains restaurants vont fermer des fois un peu plus tôt, donc bien vous renseigner en amont. Et puis la façon de manger est un peu différente puisqu'on va faire plutôt du bruit en mangeant, notamment en mangeant ses nouilles. Donc ne soyez pas surpris, ce n'est pas de l'impolitesse, bien au contraire. C'est justement à nous, quand on est touriste étranger, de faire aussi cet effort de faire honneur au plat.
Oui, il y a beaucoup de petites choses qu'on va apprendre de la culture locale en allant manger. Et pareil, vous trouverez aussi certains restaurants. Enfin, les restaurants, ils sont spécialisés par type de plat, on va dire, ou type d'ingrédients. Et donc, par exemple, vous aurez peu souvent des desserts dans les restaurants. Il faudra aller dans un autre établissement dédié à tout ce qui est pâtisserie ou dessert sucré pour aller manger votre petite touche sucrée à la fin du repas.
Et puis si c'est votre première fois au Japon, eh bien ne soyez pas perturbé si des gens vous crient dessus quand vous rentrez dans le restaurant. C'est de bon augure justement.
Oui, il vous le dit bonjour, oui. Il vous accueille. Oui, il y a plein de choses à expérimenter sur la gastronomie. En tout cas, c'est un pays où vraiment vous allez bien manger.
Et nous enchaînons sur la partie 3, nous allons parler des beaux paysages du Japon. L'archipel japonais, il s'étend du nord au sud et comme vous le savez, c'est un climat froid et on retrouve même de la neige hein, avec de grands lacs aussi et des parcs nationaux dans le nord à Hokkaido. Et on peut aller jusqu'au sud-ouest avec bien plus loin Okinawa qui va vous offrir un climat subtropical avec des eaux turquoises, de la plongée sous-marine. Vous pourrez observer par exemple les raies manta et le fameux sable d'Okinawa. Donc voilà, un paysage très 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 varié sur un seul et même territoire. C'est aussi pour ça qu'on pointe souvent du doigt le fait que selon où vous allez à une saison donnée, vous n'allez pas forcément voir les mêmes choses au printemps, selon où vous vous situez géographiquement sur le territoire japonais. Donc ça, c'est à bien prendre en compte lorsque vous allez voyager.
Oui, en fait, comme c'est un archipel étendu, le climat n'est pas forcément le même dans toutes les régions. Et quand vous allez à des saisons de transition comme le printemps ou l'automne, vous pouvez avoir des destinations où il y a encore de la neige et où il fait froid, et des destinations où il y a déjà en fait des couleurs automnales ou bien des floraisons printanières qui sont présentes.
Oui, et puis le Japon, c'est aussi une région du monde où la nature est autrement vivante, dans le sens où, comme vous le savez, il y a des tremblements de terre, des tsunamis, des typhons et des volcans. Et on ne dit pas ça pour vous inquiéter, c'est que ça fait partie, c'est ça aussi qui façonne tant la culture que le paysage japonais. D'ailleurs, c'est très ancré hein, dans la culture, qu'elle soit historique, spirituelle ou même dans la pop culture. On l'a vu récemment avec Suzume, qui parle justement de cette intégration-là des séismes et de leur origine spirituelle, on va dire, dans le paysage japonais, dans la culture. Donc c'est un territoire territoire qui va être très très résilient, que ce soit par rapport à ces aléas climatiques ou géologiques, et puis même par rapport, on l'a vu avec la Seconde Guerre mondiale, avec les bombardements. Donc c'est une société qui est vraiment très résiliente.
Et oui, Charlie, et d'ailleurs, c'est ce qui en fait aussi toute la beauté en fait, du Japon, aussi bien dans sa culture et dans son histoire que dans son paysage. Parce que toute cette nature vivante, elle a façonné le paysage du Japon que l'on retrouve aujourd'hui et qui font de très jolis paysages à visiter. Et on peut commencer par le monument naturel emblème du Japon. C'est donc le mont Fuji, le Fujisan, qui est la plus haute montagne du Japon. Et elle est entourée par une région avec des lacs volcaniques situés en plaine au sud-ouest de Tokyo. Donc c'est un paysage magnifique, qui a à la fois une image d'Épinal et effectivement quelque chose d'assez sacré. Et c'est vrai qu'on apprécie beaucoup dans la vue du mont Fuji le côté symétrique de la montagne, donc toujours en harmonie avec la nature et une certaine forme artistique naturelle qui plaît très bien aux Japonais et aussi aux étrangers qui visitent.
Oui, puis il faut savoir que tout autour, la montagne en elle-même est un territoire sacré. Et tout autour, en termes de relief, c'est vrai que c'est assez neutre, assez plat. Donc ça met encore plus en avant cette emblématique mont Fuji. Et puisqu'on en est à parler de montagne, eh bien, on vous rappelle que le Japon est une terre volcanique. Hein, il y a énormément de montagnes, de toute façon, beaucoup de reliefs, dont des zones encore actives. C'est cette activité qui génère, qui crée cette source chaude, les fameux onsen pour lesquels les touristes vont au Japon et pour lesquels aussi les Japonais usent depuis de nombreux siècles de ces sources chaudes partout à travers l'archipel. Donc il y en a beaucoup à Kyushu par exemple, qui va être une région plus active. D'ailleurs, le volcan est encore en activité. Hein.
Oui, le Sakurajima au sud de Kyushu.
Donc ça va nous donner à la fois des endroits sublimes à observer, dans lesquels rentrer aussi dans ces sources, notamment lorsqu'elles sont naturelles. Et d'ailleurs, Marjorie, est-ce que tu pourrais nous citer quelques endroits remarquables pour profiter de ces sources chaudes ?
Oui, donc ce sont les fameux thermes japonais. Donc on y va pour se délasser, pour se ressourcer, pour aussi avoir des vertus un peu thérapeutiques parce que les eaux, elles ont un pH et elles sont riches en minéraux naturellement. Comme ce sont des sources chaudes qui sont différentes, elles ont toutes un intérêt et des vertus qui sont différentes. Donc on peut très bien en visiter plusieurs selon ce qu'on souhaite s'apporter à soi-même sur son corps. Et pour vous citer des endroits qui sont absolument sublimes, on a donc à Kyushu Kurokawa Onsen, donc qui est dans une vallée avec plusieurs établissements. C'est là où on va retrouver les auberges thermales, donc les fameux ryokan, et qui sont magnifiques à visiter. On a aussi le village thermal de Kusatsu à Gunma, donc qui est pas très loin de Tokyo. On peut y aller en bus, qui est très joli en hiver sous la neige. On a beaucoup de photos qui circulent dans les magazines et sur les réseaux sociaux. Et on a aussi une fiche à sur Kanpai, et c'est vraiment un village qui est très joli. On peut aussi citer Higashi Yama Onsen à Aizu Wakamatsu, donc ça c'est au nord de Tokyo. On peut aussi citer Iya Onsen dans la vallée éponyme à Shikoku, donc là on est complètement encastré dans une vallée entourée par la verdure et on descend chercher les sources chaudes qui sont au bord de la rivière. C'est très très joli, très apaisant. Et on peut aussi citer le village de Kinosaki à Hyogo, donc vers la mer du Japon. Donc c'est un village qui est aussi assez réputé, aussi bien auprès des Japonais qu'auprès des touristes, où on va en fait visiter plusieurs sources chaudes et se baigner dans différents établissements. Tout cela habillé en yukata, c'est très sympa. Et donc, il faut dire aussi qu'à côté de ces sources chaudes, on peut aussi trouver d'autres paysages volcaniques à visiter, comme des soufrières. On connaît celle de Hakone, qui est très jolie, enfin, qu'on survole en téléphérique. Il y en a d'autres aussi, un peu dans les hautes montagnes. Il y en a d'autres au Japon. Donc, si vous ne voulez pas faire celle de Hakone, vous pouvez aller sur d'autres sites. Notamment, il y en a à Hokkaido aussi.
Et on ne cessera de vous rappeler qu'on peut vous conseiller fortement, nous, de passer par des agences si vous voulez profiter au mieux aussi de ce territoire pour les onsen notamment, puisque ce n'est pas n'importe où qu'on peut les trouver, il y a des choses qui se réservent quand même bien en amont. Donc si vous passez par une agence, ce sera plus confortable pour vous, pour vous assurer des places dans les bons sites, parce qu'il y a aussi plein de choses qui ressemblent et qui ne sont pas vraiment des onsen. Et à côté de ça, l'agence va pouvoir vous conseiller et vous assurer si les tremblements de terre vous inquiètent, par exemple, ou si vous êtes à des périodes où il y a potentiellement des typhons au Japon. Puis vous pourra vous orienter aussi pour éviter ce type de période hein, où il peut y avoir plus facilement des typhons.
Oui, voilà, on peut vous conseiller sur les meilleures saisons pour partir au Japon en fonction aussi des envies de chacun ou du fait d'éviter certaines périodes qu'on considère comme moins intéressantes à visiter. Mais bon, sachez que quand même, toutes les saisons au Japon sont bonnes et il y a toujours quelque chose à faire, même si on est en hiver, il y a toujours des beaux paysages à voir sous la neige. Par exemple, les jardins japonais, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais c'est très joli sous la neige. Se baigner dans les eaux chaudes quand il fait froid dehors, c'est un passe-temps assez agréable, je dois dire. Donc, toutes les saisons sont bonnes et apportent chacune des paysages intéressants à voir. Du coup, on connaît les pics touristiques du Japon qui sont le printemps pour les sakura, donc plutôt au début du printemps, donc fin mars, début avril, et puis après tout le mois d'avril, en fait, puisque les sakura continuent de s'épanouir jusqu'au nord du Japon. Et puis, on a aussi le milieu de l'été, notamment au Japon, c'est pour Obon. Et aussi, on a après l'automne, donc pour la feuillaison des koyo, et donc les couleurs automnales flamboyantes. Donc pour toutes les saisons, on a déjà répondu à certaines questions sur les meilleures saisons, sur quand partir, etc., dans nos podcasts, et aussi dans les podcasts qu'on fait à l'heure actuelle sur chaque saison.
Oui. Donc là, on avait fait le printemps récemment, on a fait l'ensemble des saisons, c'était un de nos tout premiers podcasts. Et puis récemment, il y a Gaëlle qui a interviewé Zoé Djegou, qui est autrice et qui parle des 72 saisons. Puisque au Japon, l'ancien calendrier, le Koyomi, parle lui de 72 saisons, qui donc, il y a une description assez précise des événements qui s'y déroulent, des changements de la nature et autres. Donc voilà, on peut vous renvoyer vers tout ça pour éviter de faire trop de redites ici. Donc, mais comme tu le disais, à retenir, hein, c'est toutes les saisons sont bonnes au Japon.
Oui, et notamment les micro-saisons, donc les 72. C'est vraiment un paysage qui change en fonction des saisons.
Et donc tout ça, ça nous donne aussi un paysage très diversifié. Lorsque vous allez partir en itinérance sur l'archipel, vous allez passer par des villes très très urbanisées, on parle même de sur-urbanisation. Vous allez passer dans les montagnes, vous pourrez faire de la randonnée, il y a beaucoup de côtes très découpées, hein, beaucoup de littoral sur le Japon également. Des campagnes rurales avec sa vie, on parlait tout à l'heure des endroits où on va encore croiser des anciennes maisons, des cultures qui sont plutôt... alors évidemment il y a de l'industrialisation, mais il y a aussi beaucoup de travail manuel encore, vous allez voir quand même pas mal de gens dans les champs et dans les rizières, et on peut faire de l'urbex aussi, Marjorie.
Oui, oui, le Japon a quelques destinations donc, pour faire de l'exploration en fait, urbaine de sites abandonnés, puisque bon, vous le savez, avec la démographie japonaise qui est en baisse, on a des villages qui se dépeuplent et on a aussi des sites qui, au cours de l'histoire, ont été abandonnés pour diverses raisons. Comme c'est un archipel, on a aussi plusieurs petites îles qui ont servi pendant un temps et qui aujourd'hui sont délaissées, mais qu'on peut encore visiter, qui sont ouvertes à la visite. Donc là, nous, on va plutôt vous orienter sur de l'urbex légal, c'est-à-dire encadré, pour éviter en fait tout problème sur place et aussi que vous vous blessiez, parce que ça reste des sites abandonnés. Et on peut vous en citer un qu'on a fait pour Kampai qui est très bien, c'est l'île au large de Wakayama, donc Tomogashima, qui est en fait une ancienne île qui servait de poste de surveillance avancée pour rentrer dans la baie d'Osaka, donc jusqu'à Osaka, et on peut visiter d'anciennes batteries militaires, donc d'anciennes ruines en briques rouges, et on a un pan de l'histoire à l'époque où le Japon se défendait de cette façon. Donc c'est aussi une autre façon d'aborder le Japon, c'est de partir aussi sur des paysages qui mêlent nature et histoire.
Cependant, nous, on va plutôt vous déconseiller de suivre aussi ce que font les youtubeurs peut-être en ligne, puisque des fois, on va nous indiquer des sites où il y a de l'urbex à faire sur de super sites, mais c'est pas du tout quelque chose d'autorisé. Donc ça, on vous le déconseille, hein, puisque là, ils sont passés entre les mailles du filet, on va dire, mais les autorités japonaises ne seront pas conciliantes, forcément.
Oui, voilà, ça, après, c'est votre responsabilité. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on va conseiller. On peut aussi faire l'île de Gonkanjima au large de Nagasaki, donc, qui était en fait une ancienne île ouvrière dans la production de pétrole et qui maintenant sert de scène de film pour des grands films américains et qui est très jolie à voir, qu'on a fait pour Kampai.
Et puisque l'on parle de beaux paysages, on ne pourrait pas, dans cette catégorie, oublier l'architecture japonaise, qui a une très grande variété, et qu'elle soit moderne ou traditionnelle, vous allez la voir se mélanger et créer de superbes paysages, que ce soit dans les campagnes ou dans les grandes zones urbaines. Pour ne citer qu'elle, on pourrait nommer Tokyo, par exemple, qui est le terrain de jeu par excellence des architectes depuis très longtemps, et puis qui a permis à de grands noms de l'architecture de pouvoir s'exprimer. Je me souviens aussi qu'il y a quelques musées qui vont vous donner des explications sur, par exemple, les constructions des charpentes, etc. Il y a tout un art aussi au Japon de construction sans forcément de ciment, etc., tout en bois.
Oui, c'était à Kobe.
Le Sanclun Ibis, on va dire. Japonais.
Oui, oui, le musée, il est à Kobe.
Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, le Japon, c'est une société très, très résiliente. Est-ce qu'il avait permis d'avoir tout un cycle de construction et de destruction, de reconstruction? Donc, il y a un savoir-faire aussi qui s'est exprimé en permanence et une évolution dans les villes qui ont subi, que ce soit les incendies, les tremblements de terre, etc., et tsunamis, avec des architectes qui ont toujours eu des idées pour renouveler ces villes, justement.
Oui, les influences en fait d'art et en matière d'architecture, elles sont très visibles à Tokyo parce que en fonction de quand le bâtiment a été reconstruit, l'architecte qui a été nommé, par exemple Tadao Ando, il a mis sa patte et il a aussi en fait laissé le témoin de l'époque où a été construit ce monument. Donc on aura des architectures romaines, des architectures d'inspiration occidentale, des architectures très traditionnelles, très japonaises en bois. Tout ça va se mélanger dans une belle harmonie et en fait va illustrer ce qu'on disait en introduction sur le Japon, c'est que c'est un pays de strates et de couches. Et donc on va les ajouter les unes aux autres, on va les juxtaposer et c'est un joli voyage qu'on peut faire à travers l'architecture des bâtiments, notamment à Tokyo.
Pour conclure sur les paysages au Japon, on pourrait dire que le Japon, c'est un pays à part par rapport à l'Asie, de par sa forme très étendue, justement. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se retrouver. Hein. Il y a de très nombreux temples, comme on pourrait retrouver, par exemple, en Thaïlande. Il y a des plages de sable fin, comme on pourrait retrouver aussi dans ces endroits. Il y a des choses qui peuvent ressembler à l'urbanisation de Hong Kong, par exemple, ou ailleurs en Chine. Mais le tout fait que ça reste très japonais, avec une société aussi elle-même très différente. Donc, vous allez pouvoir aussi savourer ce pays un peu à part, de par ces paysages et ce que l'on en fait par l'architecture notamment. Et tout ça, ça nourrit tout un imaginaire aussi et ça fait l'objet de bien des fantasmes que vous pouvez retrouver durant votre voyage.
Oui, c'est vrai que le Japon, en fait, est un peu synonyme de rêve d'exotisme puisque ça reste un pays industrialisé comme en Europe et comme en Occident, mais tout est différent, en fait, dans la symbolique, dans la façon de vivre et dans la façon de voir les choses. Et donc, du coup, on reste quand même sur quelque chose qui fascine parce qu'il est différent, qu'il est particulier. Voilà, l'identité propre du Japon, son côté très insulaire et très fier, rend la destination assez unique. Et même ça, dans le paysage asiatique, on peut le ressortir. Le Japon, ça fait partie de l'Asie, mais ce n'est pas l'Asie quelque part.
C'est d'ailleurs pour ça que de nombreux Coréens et Coréennes, et puis pareil pour la Chine, visitent en masse ce pays. Et donc ce pays, on vous le disait qu'il y a un pays lointain, eh bien ça va nous permettre d'enchaîner avec la partie 4, puisqu'on va parler de la langue japonaise et de son utilité en tant que porte d'entrée potentielle pour justement apprécier d'autant plus le pays.
Oui, la plupart des gens qui choisissent d'apprendre la langue japonaise quand ils habitent en Europe ou aux États-Unis, c'est un peu pour apprendre une langue exotique qui change des langues latines, donc une langue plus orientale, assez esthétiquement aussi belle, puisque souvent, en fait, on peut décider d'apprendre le japonais parce qu'on trouve que les kanji, c'est joli, que la calligraphie, ça nous apporte quelque chose. Et donc, on va essayer de comprendre, en fait, cette calligraphie et on va apprendre la langue. On peut aussi décider d'apprendre la langue japonaise par rapport à l'histoire, vu qu'on voit un peu le Japon quand on est plus jeune dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale en général, vu qu'il a été forcément impliqué. Et puis là, c'est une autre histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est donnée au Japon. C'est pas tout à fait la même chose que chez nous, on n'était pas dans le même camp, on va dire. Et ça peut être aussi une façon d'élargir ses horizons et d'avoir un point de vue plus oriental sur les choses que notre point de vue très occidental. Et puis aussi, apprendre la langue japonaise, c'est pour tous ceux qui sont fans de culture populaire, qui regardent les animés, qui lisent les mangas, qui veulent en fait en savoir plus sur la mentalité, en savoir plus aussi sur l'art, cet art moderne japonais. Eh bien, on va apprendre la langue pour s'enrichir et se donner des possibilités d'ouvrir son horizon.
Et c'est peut-être qu'une impression personnelle, mais je dirais que apprendre le japonais, donc faire cette démarche de choisir cette langue, c'est rarement, on va dire, pour un côté pratique, commercial presque, puisque ce sera plus lié, je pense, à de l'intime. On va plus s'imprégner de la culture par la langue. Et d'ailleurs, si on veut bien maîtriser la langue, c'est aussi une démarche qu'on doit faire, hein. Ça passe vraiment par la culture, j'ai l'impression, et par l'histoire. Donc, ce sera plutôt une initiative personnelle d'imprégnation du Japon, de mieux connaître cette identité un peu très particulière qu'a cet archipel, plutôt que de parler japonais pour un côté, comme je disais tout à l'heure, pratique, d'aller à l'étranger parler japonais ou de faire du commerce, du business, sauf si on est très calé sur le saké ou une industrie en particulier, quand on travaille dans un milieu de l'ingénierie, etc. Hein, mais...
Oui, c'est sûr que sur un CV, c'est pas quelque chose qu'on va forcément mettre en avant parce que ça n'a pas forcément de débouchés professionnels très importants, même s'il y en a, mais il faut quand même être assez motivé pour réussir dans ce milieu. Et c'est vrai que c'est plutôt une langue à la base qu'on apprend pour appétence personnelle plutôt que quelque chose de pratique comme l'anglais qu'on sait qu'on doit apprendre parce que ça va nous servir.
Oui, parce qu'en plus, elle a quelque chose de très esthétique, que ce soit par le son, par le visuel aussi. Tu parlais des kanji tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans les choses que l'on aime, dans les animés, dans les mangas, dans la nourriture. Donc forcément, ça nous y amène petit à petit, bien que derrière, il n'y a pas ce côté pratique, mais plutôt cet amour du Japon et ce partage de culture, on va dire, par le biais de la langue.
Oui, c'est pour ça qu'une fois qu'on arrive sur place, il faut en profiter pour parler japonais. Et du coup, ça va nous servir hein, sur place pour lire les panneaux, commander à manger, discuter un petit peu avec les commerçants, etc. C'est vrai qu'apprendre quelques mots, même pour des touristes amateurs, ça peut être une bonne chose parce que, on le rappelle, les Japonais, ils ne sont pas les plus forts en matière de langue internationale, un peu comme nous en France. Et donc, on va avoir plein de choses qui vont être traduites en anglais sur les panneaux, dans les menus, dans les restaurants, etc. Mais c'est vrai à savoir quelques mots, pouvoir dire merci, pouvoir dire bonjour, pouvoir énumérer pour dire je veux un plat, deux plats, trois plats, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant à faire et puis ça permet aussi d'engager une certaine conversation avec la personne qu'on aura en face où on fait l'effort d'apprendre quelques mots en japonais.
Oui, c'est bien ce que tu dis, le fait de faire l'effort, puisque on peut constater quand on voyage que des gens ne comprennent pas pourquoi le japonais ne parle pas sa propre langue. On va dire ça, c'est valable aussi à l'étranger. Et c'est toujours à nous, quand on va quelque part, hein, que ce soit le Japon ou pas, de faire l'effort. Et puis, si on ne se comprend pas, c'est pas grave du tout. Vous allez voir qu'au Japon, vous serez quand même bien accueilli, même si vous ne parlez pas la langue.
Oui, bah déjà, en fait, on aura ce qu'on appelle un délit de faciès positif. Hein, c'est que comme on ne ressemble pas à un japonais physiquement, c'est vrai que on va avoir tendance à être traité comme un étranger qui ne parle pas la langue. Et donc, du coup, ça peut être intéressant pour nous touristes parce que du coup, on va se sentir accompagné, on va nous parler plus simplement, on va nous montrer directement les choses en anglais ou dans un langage qu'on pense comprendre. Et du coup, c'est très agréable. On se sent en fait reconnu tout de suite. C'est très agréable pour les touristes. Ça l'est des fois un peu moins pour ceux qui résident au Japon, puisque du coup, bah, eux parlent très bien japonais et des fois, on leur parle encore en anglais, ça leur arrive. Mais c'est aussi comme ça, le Japon, c'est une culture et c'est un pays dans lequel on peut s'intégrer, mais on ne sera jamais japonais.
Oui, oui, c'est ça. L'intégration, elle se fait assez rarement lorsque l'on n'est pas japonais au final.
Oui, c'est une intégration où on accepte notre part d'exotisme à nous.
Et pour en revenir et en terminer avec la partie sur la langue japonaise, vous pourrez retrouver de quoi apprendre quelques mots hein, dans les guides papier que vous achetez souvent ou aussi sur certaines applications.
Oui, et on a une rubrique sur Kampai sur la langue japonaise où on apprend des petites choses voilà, de la vie pratique, des petites questions, comment répondre. Et ça peut vous être utile. Et il y a des audios qu'on peut écouter aussi.
Et d'ailleurs, sur nos packs soutien que l'on vend sur Kampai, si vous prenez le pack soutien, qui sert donc par définition à nous soutenir à Kampai, vous pourrez acheter nos livres et vous aurez aussi de quoi apprendre la langue japonaise dans ce pack-là.
Oui.
Et sans transition, nous allons terminer ce podcast sur notre cinquième partie avec la facilité et la tranquillité de voyager au Japon. Donc je pense que vous aurez pu le deviner avec tout ce qu'on a dit jusque-là et ce qu'on évoque aussi de temps en temps dans les podcasts évidemment. Mais on va vous en faire un petit point quand même en commençant par exemple par le sentiment de sécurité Le vol au Japon, c'est absolument pas quelque chose de commun. L'agression non plus, il n'y a pas de pickpocket. D'ailleurs, vous n'entendez pas d'annonce de pickpocket hein, dans les bus, dans le Shinkansen ou autre. Il y a un respect des règles qui est très collectif, souligné par aussi un peu de délation, on peut le dire. C'est pour ça que ça fonctionne bien aussi.
C'est vrai.
On peut rentrer tard la nuit en transport au commun, même s'il n'y a pas d'éclairage, etc. C'est un pays sûr pour voyager en solo.
Et aussi quand on est une femme, puisqu'il y a peu de risques qu'on se fasse vraiment embêter au Japon par rapport à d'autres pays. Il y a bien sûr parfois des petites scènes où on peut se faire un peu embêter ou à quelques racolages, je pense, dans certaines rues à Tokyo pour rentrer dans des bars et tout. Mais ce n'est pas aussi insistant qu'on pourrait le voir chez nous en Occident. Et puis en général, on passe son chemin et on n'aura pas plus de problèmes que ça. Évidemment, la situation, elle n'est pas rose à 100%, hein, je tiens à le préciser. Le mieux, c'est d'éviter de se mettre dans des situations à risque. Donc, quand vous rentrez la nuit, vous pouvez rentrer la nuit, c'est ce que tu disais, en transport en commun, mais éviter de marcher toute seule dans des endroits où il n'y a vraiment personne. Mais après, voilà, il n'y a vraiment pas de problème à voyager quand on est une femme au Japon. Et on peut même voyager en étant une femme et solo. Ça se fait aussi pas mal et ça se passe en général très bien.
En règle générale, en Asie, c'est plutôt le cas, mais d'autant plus au Japon. On pourrait aussi parler de cette facilité, cette tranquillité de voyage en parlant de la propreté, puisque le Japon, il est évidemment connu pour sa qualité d'hygiène, on va dire, que ce soit dans les rues, dans les transports en commun, où tout est propre, alors même qu'il n'y a que très très peu de poubelles à disposition. Donc ça, vous allez forcément le remarquer dès votre premier voyage. Tout est vraiment clean. Il n'y a pas de prospectus, pas de déjection de chiens, pas de mégots par terre.
Oui, ça c'est dans la plupart des rues. Après, il y a effectivement des petits quartiers où c'est un peu plus sale. Voilà.
Mais dans la grande généralité, ça va vous faire bizarre de voir une rue propre.
Oui, voilà. Ce qu'il faut dire, et c'est une remarque qui revient souvent pour tout premier voyageur au Japon, c'est l'aspect très propre du pays. Donc que ce soit dans les grandes villes, que ce soit aussi à la campagne, etc. Évidemment, il y aura toujours des quartiers, des petites rues parallèles qui sont un peu plus sales. Enfin, un peu plus sales, c'est normal en fait. Mais la majorité du temps, c'est vrai qu'on apprécie le côté très propre. Et surtout dans les transports en commun, où on s'assoit facilement sur les sièges sans regarder si c'est pas trop taché.
Oui, même tenir la barre des métros, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement et vous verrez souvent des agents de nettoyage passer dans les bus, dans les métros. Toujours pour rester sur la thématique transport, les aéroports du Japon font partie du top 10 des aéroports les plus propres du monde. Selon une enquête récente, je crois que c'était Skytrax, on en a parlé avec Gaël dans le podcast Actu. Donc voilà, c'est quelque chose de très très général au Japon, même pour les sanitaires par exemple, qui vont être très propres évidemment.
Oui, les sanitaires publics et même ceux des gares, on peut les utiliser en toute tranquillité.
Et gratuitement très souvent.
Oui, et on dira aussi qu'il y a peu de tags sur les murs, même dans des quartiers un peu nocturnes, un peu plus malfamés. Il y a peu de tags, alors on en trouve quand même de temps en temps, notamment dans certaines grandes villes, mais ce n'est pas du tout l'ampleur de ce que nous on connaît ici. Ça, c'est vraiment très différent et c'est ça aussi qu'on remarque dans la côté propreté, c'est qu'il y a... Voilà, tout est un peu carré, enfin voilà, tout très propre et harmonieux. Alors vous verrez beaucoup de barrières aussi, parce que comme tout est propre, souvent c'est ne pas passer par là, ça a été nettoyé, faites attention ici, c'est en travaux. Mais voilà, la réputation de la propreté du Japon, elle existe réellement.
Et par conséquent, ce sera aussi à nous de faire notre part lorsque l'on voyage dans ce pays et dans tous les autres, et quand vous allez en France aussi.
Oui, c'est bien aussi.
Eh bien, vous savez qu'il n'y a pas de poubelles généralement mises à disposition, de très très petites poubelles dans les chambres souvent, donc c'est à nous de gérer nos propres déchets et vous verrez qu'il y aura toujours quelqu'un aussi pour se proposer dans les restaurants ou autres de vous aider justement à éliminer certains déchets. Il y a le tri aussi qui se fait sur place, donc préparez toujours des sacs poubelles étanches, parce que si vous prenez à manger à emporter qu'il y a un peu de sauce, etc., ben c'est pas quelque chose dont vous allez pouvoir vous débarrasser facilement, donc vous allez le rapporter dans votre hébergement.
Oui.
Ça va de pair avec le côté sanitaire qui va être très sûr au Japon également. Donc bien que vous voyez des gens avec des masques, pas besoin de vaccin en particulier pour aller au Japon en tant que touriste. Il n'y a pas de maladie spécifique hein, sur place à contracter. Les mêmes infections virales que chez nous en Europe sont en cours au Japon.
Oui, voilà, l'hiver, vous avez des infections voilà, virales, un rhume, une petite grippe, etc. Ça peut arriver comme chez nous, en fait, ça ne change rien. Et si on porte beaucoup de masques au Japon, c'est alors ça a été à cause du Covid évidemment, mais ça existait déjà avant. Et c'est souvent à cause des allergies. Par contre, il y a beaucoup d'allergies au pollen parce qu'au Japon, il y a beaucoup de pollen, notamment les pollens de cèdre. Et du coup, il y a beaucoup de personnes allergiques et c'est pour ça qu'ils portent les masques en extérieur pour éviter que les particules allergènes rentrent dans leur nez et dans leur bouche.
Alors même s'il n'y a pas de risque en particulier, on ne peut que vous conseiller d'être assuré par rapport notamment à la santé. Donc si vous allez au Japon, et là dont on a parlé dans un podcast Assurance Voyage récemment tous les deux.
Oui, voilà, parce qu'il y a un réseau de santé qui existe bien, mais il est aussi privatisé. Donc la question du coût de la santé, ça peut être important à prévoir. Et du coup, il existe des assurances voyage pour ça. Et on a même un podcast aussi également.
Et pour rester sur la tranquillité et la facilité du voyage au Japon, on ne peut pas oublier les transports en commun, donc on en parle souvent dans nos podcasts, qui peut changer par rapport aux idées reçues. Ça va être les gares, qui ne sont pas du tout des endroits mal famés, c'est d'ailleurs très souvent de super quartiers, hein. On va avoir un peu tout à disposition, justement qui vont être très propres, et c'est un très bon point qui facilite et tranquillise son itinérance au Japon, notamment le fait que les transports en commun sont très très souvent à l'heure, notamment le Shinkansen qui va être vraiment à la minute près et quasiment aucun retard par jour. Et ce qui pourrait vous surprendre, c'est, on a souvent la question, pour passer d'un quai à l'autre par exemple, on se dit « mince, j'ai que 5 minutes, ce sera impossible avec mes bagages ». Eh bien rassurez-vous, hein, la façon de sortir ou de rentrer dans les wagons au Japon est tellement rodée qu'en fait, vous allez voir que rentrer dans un train en 30 secondes avec une cinquantaine de voyageurs, ça se fait très bien.
Oui.
Donc en sortir et passer d'un quai à l'autre également.
Oui, en général, les trajets, ils sont faits avec efficacité. Donc si on vous dit « il y a 5 minutes de transit », c'est que c'est faisable. C'est faisable pour n'importe qui. Donc vous avez le temps de sortir du train et en général le train est sur le quai d'en face et vous montez de l'autre côté, vous n'avez même pas besoin de revenir sur une plateforme, etc. Donc tout est vraiment bien rodé, donc vous pouvez faire confiance au système ferroviaire japonais.
Et puis si vous avez prévu de louer une voiture, alors déjà on vous rappellera qu'il faudra passer par une agence pour traduire votre permis puisque le permis international n'est pas valable au Japon, donc c'est forcément à valider par la JAF et donc par des agences par exemple françaises, on peut citer Keikaku par exemple qui vous propose ce service. La conduite au Japon certes elle est à gauche mais en fait elle va être facilitée par les boîtes auto qui sont très très courantes au Japon et aussi par un respect du code de la route.
Oui. Voilà, et après, vous verrez, donc c'est très bien indiqué hein, sur la route, les panneaux, etc. Bon, ça change un peu de notre façon de conduire vu que c'est à gauche. Donc les panneaux, ils sont en face quand on regarde, par exemple, à un carrefour, nos panneaux, ils sont en face, le feu est en face. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire aussi des fois attention sur la réglementation de la vitesse. Parce que la vitesse, elle est un peu plus basse. La vitesse maximale sur autoroute, elle est un peu plus basse que chez nous. Parfois, les Japonais ne respectent pas totalement le côté vitesse, ils peuvent être un peu plus rapides que ça, voilà, on conduit très bien, sans problème, et puis vous pouvez faire des longs trajets, vous aurez des aires de repos sur les routes, donc des aires d'autoroute, qui sont très très bien faites par rapport à chez nous, on appelle ça les Michino Eki, donc c'est des aires d'autoroute touristiques, enfin des aires de repos touristiques, et là-bas en fait vous allez pouvoir avoir un aperçu de la région où vous êtes, de ses spécialités gastronomiques, de son folklore, de sa culture, et vous avez des petites boutiques, c'est très sympa, ça permet de visiter des régions sans les visiter, par exemple si on y va juste en passant, on aura quand même un aperçu de l'intérêt touristique de la région. C'est des aires d'autoroute très propres, on peut même des fois se laver là-bas, bien sûr aller aux toilettes, se reposer, c'est très sympa.
Alors c'est vrai que si vous restez dans des grandes villes comme Osaka ou Tokyo, on ne va pas forcément vous recommander une location de voiture, pour même si vous comptez faire des petits écarts en dehors de la ville. Par contre, si vous faites par exemple Shikoku ou les Alpes japonaises, eh bien c'est quelque chose qui est très recommandé parce que c'est vraiment simple de conduire au Japon. Et si cela vous inquiète de ne pas réussir à vous repérer, en fait le GPS, votre GPS de téléphone ou celui des voitures fonctionnera très bien. Donc vous avez forcément les interfaces en anglais. Donc c'est très très facile de circuler au Japon.
Oui.
Et de façon générale, de toute façon, votre voyage au Japon sera forcément agréable puisque les hébergements seront de très bonne qualité, propres, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une qualité de service au rendez-vous.
Oui, en général, le service à la japonaise est vraiment bon, même pour des hôtels peut-être un peu moins bien notés ou avec moins d'étoiles. On reste quand même sur un niveau qui est très correct, même au minimum. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le fait que c'est un pays où on aura des magasins ouverts 7 jours sur 7 et parfois 24 heures sur 24, hein, notamment les combini. Donc, il y aura toujours de quoi trouver à manger. On ne va jamais se retrouver sans rien. Alors, parfois, dans les campagnes rurales, effectivement, là, ça ferme un peu plus tôt et on peut se retrouver avec peu de choses à choisir. Par exemple, juste le combini. Mais vous aurez quand même toujours de quoi manger, de quoi trouver quelque chose d'ouvert. Donc, c'est vraiment... pour voyager à un pays industrialisé qui est très confortable et qui permet, voilà, on se fait peu de soucis une fois sur place, on sait, on se laisse porter un peu au gré des visites et on sait que de toute façon, on retombera sur nos pieds et on retrouvera quelque chose de confortable.
Et puis comme tu le disais tout à l'heure, il y a ce délit de faciès positif qui de toute façon fera que, en vous voyant, on pourra venir vers vous s'il y a besoin d'aide. Et si la personne ne parvient pas à vous aider, elle ira sans doute forcément chercher quelqu'un d'autre.
Oui, si vous êtes perdu, on viendra en fait vous voir et vous remettre sur le bon chemin en fait. Et vous accompagner parfois jusqu'à là où vous voulez aller.
Et en conclusion de ce podcast, on pourra premièrement vous rappeler que vous pouvez faire appel à une agence pour organiser votre voyage au Japon. En plus de ça, on vous rappelle que le Japon, c'est pas une destination du tout low cost, hein, même si en termes de nourriture, de produits culturels, etc., c'est très accessible. Ça reste une destination qui se prépare. Et du fait, comme on vous l'a souligné tout à l'heure, que ce soit un pays lointain, eh bien, ça demande des connaissances en amont qui vont être assez denses, hein, si vous voulez pas être perdu sur place. Donc, c'est un pays à part. Sur plein d'aspects et de façon très positive. Et par exemple, on pourra citer la différence un peu par rapport à l'administration qui va être différente. Donc peut-être déjà pour vous renseigner sur comment on circule au Japon, sur le transport. Je pense notamment au système de passe, c'est une vision des choses qui est très différente d'ici en Occident. Le fait de commander des vouchers pour les changer sur place, etc. Ça demande toute une logistique qui... à première vue, est pas si évidente que ça. En fait, c'est très simple une fois qu'on est au Japon. Encore plus simple si vous êtes accompagné en amont. Pareil pour se préparer aux saisons, etc. Donc, ça demande quand même un peu de travail. On vous le dira toujours, de bien s'organiser en amont. Par contre, une fois que vous serez sur place, vraiment, c'est un des plus faciles, je pense, en termes de pratique, quoi.
Oui. Et du coup, si vous n'avez pas le temps de vous organiser un peu avant, bah faites appel à une agence spécialisée qui le fera pour vous, en fait, et qui vous évitera, voilà, de tomber dans des biais culturels ou climatiques. Vous profiterez du coup d'un voyage intéressant, surtout qu'effectivement, le coût de ce voyage, il n'est pas anodin. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il soit réussi le plus possible.
Et puis, en voyageant à l'étranger, on ne peut pas exiger de faire la même chose que chez soi. Donc, il faut aussi avoir des petites notions pour pouvoir bien s'adapter et puis profiter au mieux de son voyage en connaissant justement ce qui peut vraiment varier. Et après, vous aurez tout le plaisir de découvrir ce que ça vous procure.
Oui.
Eh bien, Marjorie, je te remercie pour le temps accordé pour ce podcast voyage. On vous remercie comme toujours très chaleureusement pour votre suivi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous noter avec plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute et puis à partager les stories qu'on peut faire ou les articles, à les partager sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui aura le plus d'impact puisque la newsletter, on a la chance d'avoir une bonne force de frappe dans le sens où vous êtes nombreux et nombreux à nous suivre. Eh bien, on vous demanderait aussi de pouvoir nous aider à diffuser le message aussi sur les réseaux sociaux. Et donc Marjorie, on se retrouve pour le prochain podcast soit destination, soit voyage. À bientôt Marjorie.
Merci Charlie, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.